Bonjour à tous. Je suis très heureux ce matin de partager le culte avec vous, de partager la parole du Seigneur. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous ce matin. On va lire notre texte, s'il vous plaît, sur Matthieu 12, 9 à 13. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien le jour de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main !» Il étendit et elle devient saine comme l'autre. Et voici, il s'est trouvé un homme qui avait la main sèche. L'Esprit du Seigneur focalise notre attention sur un homme qui avait une main sèche. Imaginez qu'il y avait quelqu'un très important et célèbre comme M. Hollande, M. Valls ou Tom Cruise ou le pape dans la synagogue. On pourrait dire, et voici M. Hollande ou M. Valls ou M. Cruise. Mais là, il y avait juste un homme handicapé de sa main. Et l'Esprit nous montre l'importance de cet homme. Pourquoi ? On verra plus tard. Ces jours-là, il y avait des gens importants présents, comme les scribes. Vous savez qui sont les scribes ? Ce sont ceux qui ont photocopié la Bible à l'époque. Il y avait aussi les pharisiens, les docteurs de la loi. Mais le Saint-Esprit nous présente cet homme-là et il le met au centre de ce événement. Un homme paralysé de sa main. Nous apprenons que sa main droite, sa meilleure main, était non utilisable. Luc 6, vers 6. Est-ce qu'on embaucherait un handicapé comme cet homme, si vous étiez patron? Difficile, hein, pour quelqu'un qui n'a pas sa main droite. Essayez vous-même de vous habiller avec une main. Essayez de cuisiner avec une main gauche. Essayez de faire la vaisselle ou réparer quelque chose. Vous verrez, c'est un handicap important. Même devant l'assurance, vous avez un taux d'invalidité de 100% si vous avez une main complète paralysée. Donc ce n'est pas rien. Si vous voulez, vous êtes complètement dépendant. Tous les jours, vous êtes dépendant à demander à quelqu'un, « S'il te plaît, peux-tu m'aider ? Donne-moi un coup de main pour ça, pour si vous êtes dans votre vie quotidienne dépendant. » Ce n'est pas vraiment agréable à être dépendant de quelqu'un. Comment faire pour nourrir une famille ? À l'époque, il n'y avait pas le RSA, comme on a aujourd'hui, ou d'autres aides du gouvernement. Peut-être aussi un handicap de trouver une femme. Dans la société, cet homme est plutôt inutile. Par contre, devant le Seigneur, très important. Et voici un homme qui avait la main sèche. Pour le Seigneur, Jésus-Christ, ça ne joue aucun rôle si tu es ministre ou une femme de ménage, un coiffeur ou un professeur de maths. Pour le Seigneur Jésus-Christ, ça ne joue aucun rôle si tu es riche ou pauvre, si tu es blanc ou noir, si tu es handicapé ou en bonne santé, joli ou moche. Mais si tu es là, ce matin, en étant une âme qui a besoin de lui, qui a soif, qui a soif et qui a faim de lui, qui veut changer sa vie parce que tu te sens paralysé dans ta vie, sache qu'on peut te dire aussi sur toi ce matin, et voici un homme ou une femme avec une main sèche. Et crois-le, je peux te rassurer que Dieu te voit ce matin. Il voit ton besoin, ton handicap. Ce que le Seigneur a souhaité ce matin-là, dans la synagogue, c'est de trouver quelqu'un qui veut être libéré, qui veut être guéri. Quelqu'un qui veut changer sa vie. Est-ce que toi aussi, tu aimeras bien changer ta vie? J'espère oui. En même temps, le Seigneur voulait montrer aux pharisiens et d'autres chefs religieux que la personne est plus importante que la religion ou les règles des pharisiens. Il fallait surtout pas guérir au jour de sabbat. Imaginez ça. Tenir le sabbat était plus important, et malheureusement encore pour certains groupes, encore, c'est plus important tenir le sabbat que prendre soin de quelqu'un qui souffre. Ils n'ont pas compris que le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Marc 2, 27. Une autre leçon que le Seigneur voulait apprendre aux pharisiens, c'est écrite à Matthieu 12, 7. Si vous savez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». On va lire aussi Psaume 51, 19, s'il vous plaît. Le Seigneur, il a tout à fait un autre regard que nous. Psaume 51, 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est ça qui compte devant le Seigneur. Un cœur qui souffre, qui est brisé. Mais si tu es là ce matin, peut-être pour faire plaisir à quelqu'un, à tes parents ou à tes amis, sans être vraiment demandeur du plus grand médecin, le Seigneur ne te veut pas. Il ne peut rien faire pour toi. Car tu fais partie de ceux qui sont vertués ou pharisiques. Tu te sens en bonne santé sans le Seigneur. Réponds-moi, est-ce qu'un médecin aurait envie de s'installer dans un endroit où il n'y a pas de malades? Bien sûr, non. Le Seigneur n'est pas présent dans une assemblée où tout le monde est content et satisfait. Il n'est pas dans une église où il n'y a pas d'aveugles, de cœurs brisés, de gens paralysés. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais le malade, dit le Seigneur Jésus, sur Luc 5, 31 à 32. La parole nous dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » Romains 3, 23. En fait, nous sommes tous malades. Depuis le péché du premier homme, nous sommes séparés de Dieu et nous sommes malades. David, il avait parlé de la relation entre Dieu et l'homme. C'est ça que Dieu cherche. Mais elle est cassée depuis le péché. Nous sommes séparés de ce Dieu saint. Et si vous avez du mal à accepter la diagnostic du Seigneur, regardez dans votre cœur et comparez-vous avec le seul homme sans péché, Jésus. Et vous verrez la différence entre lui et vous. On n'arrive pas à être parfait comme Jésus. Ça nous montre bien que nous sommes malades, séparés, paralysés. Donc il y a deux groupes, ceux qui reconnaissent que c'est vrai, un autre groupe qui ne veut pas accepter ce diagnostic du Seigneur. Le Seigneur regarde ce matin s'il trouve quelqu'un malade, pécheur, qui souffre de son intérieur, afin de pouvoir du bien à cette personne. Ce qu'il souhaite, c'est vraiment de faire du bien. Et vous savez, moi, je connais Dieu que comme ça. Ce n'est pas un Dieu méchant. Il dit au Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est ça le caractère de notre Dieu. Il est bon et plein de miséricorde et de compassion. Il y a 23 ans en arrière, j'ai compris ce message. Dieu, il est pour nous. Sébastien, il avait lu ce passage aux Romains. Dieu est pour nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Impossible de le rejeter. Ce Dieu qui est bon, qui est l'amour, et qui a montré son amour jusqu'au bout. Il est allé à la croix pour vous. Il a pensé à vous. Il a voulu qu'on se réconcilie avec Dieu. Et il a fait tout le nécessaire. Comment on peut résister à cet amour? Étends ta main, il a dit le Seigneur à cet homme handicapé. Il te dit aussi ce matin, étends ta main. Mais tu dis, comment faire? J'ai menti, j'ai péché, j'ai trompé ma femme, j'ai volé. Comment me pardonner? Même bien si tu sens ton incapacité, que tu es malade de ton cœur, eh bien je te dis aujourd'hui, étends ta main. Acte 16, 30, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça nous paraît bizarre quand même cet ordre, non? Étends ta main à quelqu'un qui est paralysé. Mais c'est ça la situation d'un malade, pécheur. Il n'a pas la force en lui-même. Il est paralysé. Il voudrait bien être saint, être bon. Il voudrait bien se repentir. Mais il ne peut pas. Il est paralysé à cause du péché. Mais je te encourage ce matin, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà la promesse du plus haut. Ce n'est pas moi qui fais cette promesse, c'est le Seigneur. C'est celui qui a créé le ciel. C'est celui qui a donné la vie à tout le monde. Et comment il avait fait, psaume 33, 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Tout simplement par sa parole puissante. Donc, il donne un ordre, mais aussi il donne la force à lui obéir. Cet homme paralysé, il n'était pas capable d'obéir. Il avait la main paralysée. Il a essayé 1000 fois. Il n'a jamais pu. Cet homme, et c'est ça la qualité de cet homme, il a tout simplement obéi. Il n'a pas écouté ses sentiments ou sa raison. Non, il a obéi. Le Seigneur te dit ce matin, étends ta main. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Obéis. Je crois et je prends la décision à lui obéir. Vous savez, la situation de cet homme n'a pas été facile. Imaginez, il s'est trouvé au milieu de chefs religieux, les pharisiens et les scribes. Eux, ils disaient surtout pas de miracles au sabbat. Qui obéir? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Mets-toi au milieu. Il était vraiment entre les deux. Qui obéir? Deuxième qualité de cet homme, il a montré courage. Il a fait le bon choix. La foi ne peut pas être remplacée par le baptême, ou la lecture de la Bible, ou la présence à l'église, ou en faisant un don. Tout ça, c'est important et bien. Mais si tu veux être sauvé du mal, du péché, de la punition éternelle, de la mort éternelle, tu dois faire le pas vers le Seigneur. Mets-toi au milieu, il a demandé le Seigneur. Fais ce pas. Comme cet homme dans la synagogue, il s'est levé, il s'est mis au milieu. Il a pris position. Est-ce que toi aussi tu as pris la position? Il a simplement obéi. Vous savez, l'obéissance envers le Seigneur apporte toujours la bénédiction. Je ne connais aucun cas où il n'y avait pas la bénédiction après l'obéissance. Je ne connais pas. Et je connais beaucoup de chrétiens. C'est ça qu'il nous faut, obéissance du Seigneur. Dans notre cas, la main est devenue saine, comme l'autre, entièrement guérie. Cette main guérie est un symbole de la nouvelle naissance, une naissance du haut. Jean 3, 8 à 9. Cette nouvelle naissance, elle peut donner que le Seigneur. Lui seul donne cette nouvelle vie. Devant Dieu, sans Jésus, l'homme spirituellement est mort. En croyant au Seigneur, l'homme ressuscite devant Dieu. On va lire ce passage important sur Éphésiens 2, s'il vous plaît. Éphésiens 2, 1 à 6. L'apôtre Paul décrit une vie avant qu'on a pris la décision pour le Seigneur et après. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Hein, devant Dieu, morts. Physiquement là, mais spirituellement morts. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Ça, c'est du passé d'un chrétien. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. On vivait pour nous-mêmes. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Êtes-vous encore mort ou ressuscité? C'est à vous à répondre. Beaucoup de gens ne font pas le pas vers le Seigneur parce qu'ils ne se sont pas assez bons, assez purs. Quand j'ai discuté avec des gens, souvent ils disent « Mais je ne suis pas encore assez bon pour plaire à Dieu. J'ai encore ça et ça et ça à améliorer. » Donc, ils restent assis. Ils ne bougent pas. Ils attendent qu'ils s'améliorent. Mais je vous dis une chose, ça ne va jamais arriver. Vous allez rester paralysé dans le péché, séparé de Dieu. Viens comme tu es, tel que tu es. C'est lui qui te donne cette nouvelle vie en Christ, cette nouvelle naissance du haut. La seule chose que Dieu veut, c'est ton cœur, ta disposition. Obéis, c'est simple. Le reste, c'est lui. C'est lui qui donne le accomplissement. Et tu verras le miracle qu'il fera en toi. Dis juste oui, Seigneur, je veux. Je veux être guéri. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. À propos miracle, vous savez, à l'époque, si le Seigneur guérissait les gens physiquement de leur maladie, il voulait montrer encore autre chose, plus important. À quoi ça sert si vous voyez de nouveau, si vous entendez de nouveau, si vous remarchez de nouveau, et à la fin, vous partez à l'enfer? À quoi ça sert? Dieu veut vous donner plus que ça. Il veut vous donner la vie éternelle avec lui. C'est ça la chose la plus importante que David nous a déjà dit. Vous savez, Jacqueline, elle avait aussi lu un passage. Dieu avait fait beaucoup de miracles dans le passé. Si on voit le peuple d'Israël, ils ont vu des miracles et des miracles. Le Seigneur a fendu la mer rouge. Il a pris soin d'eux pendant 40 ans. Ils étaient nourris, habillés, tout. Ils avaient tout, tout, tout. Est-ce que ça a changé leur cœur? Non. À l'époque de Jésus, c'était pareil. Ils couraient après Jésus. Pourquoi souvent les gens? À cause des miracles, parce qu'ils avaient faim, tout ça. C'est ça, l'être humain, notre cœur, il est vraiment malade. Donc, la foi, elle doit être basée uniquement sur la parole du Seigneur. Romains 10, 17. Dans le livre des Actes, Dieu fait encore des miracles. Hein? Vous le connaissez. L'apôtre Paul et Timothée, ils se trouvent en prison. Il y a un ange qui vient de les libérer. Paf! Libre. Et d'autres miracles, hein, comme la résurrection des gens, etc. Mais à partir du chapitre 22, sous les Actes, c'était fini avec les miracles. Mais après, M. Paul, il était de nouveau en prison. Et là, plus de libération par un ange. Il est resté en prison. Sur 2 Timothée 4, 20, on lit « J'ai laissé Trophimus malade à Milet. » Il a dit, apôtre Paul, « Comment ça? C'est pas possible. » 1 Timothée 5, 23, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Voyez, tout ça s'arrêtait. Il y avait un temps de miracles, mais après, ça s'est arrêté. Je suis sûr et certain que Dieu fait toujours des miracles, mais pas en quantité comme il faisait à l'époque. Ce n'est pas son sujet important, son but. Il veut vous sauver. Il veut sauver votre âme, votre esprit pour l'éternité. C'est ça qui compte. Vous savez, même l'apôtre Paul, il a crié vers le Seigneur. Il était aussi malade. On ne sait pas vraiment ce qu'il avait, mais apparemment, une maladie assez importante qui l'a empêché de faire ci et ça. Donc, il a prié vers le Seigneur. Pas de guérison sur le grand apôtre Paul. Malgré sa demande en trois fois. La réponse, c'était « Ma grâce te suffit. » Dépendre de lui, c'est ça que Dieu veut. Et vous savez, c'est merveilleux dépendre de lui. Parce qu'il est bon. Il ne va jamais vous faire du mal si ce n'est pas nécessaire. Il fait tout pour votre mieux. Je connais le Seigneur comme ça. Même si on a aujourd'hui très peu de miracles physiquement, Dieu fait toujours ce plus grand miracle dans notre monde, même aujourd'hui, de sauver votre vie pour l'éternité. Amen.